Chaque année en France, plus de 300 enfants sont enlevés brutalement par l'un de leurs parents. Des enfants utilisés comme des instruments pour faire souffrir l'autre. Qu'il dure quelques jours ou plusieurs années, cet enlèvement fait basculer la vie de ceux qui en sont victimes. Des enfants d'abord arrachés à leur famille, leur pays, leur culture, mais aussi tous ceux qui restent et qui se battent chaque jour pour les retrouver. Comment continuer à vivre pour récupérer l'être qui nous est le plus cher? Comment les enfants peuvent-ils grandir et se construire sur cette déchirure? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Nadia et de Patricia. Leur vie a basculé le jour où leur père les a emmenés en Algérie, soi-disant pour y passer des vacances. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Patricia et Nadia n'ont pas seulement été victimes d'une mésentente parentale, mais d'une profonde différence de culture et de religion. Nées en France, filles d'une mère suisse et d'un père algérien, Patricia et Nadia ont été enlevées par leur père à l'adolescence pour être mariées de force en Algérie.
Bonjour Patricia, comment allez-vous?
Bien, merci, et vous?
Bien, très bien.
Super, avec ce beau soleil.
On a la chance d'avoir ce beau temps.
Tout à fait.
Dans la famille, il y a trois filles. La plus jeune n'a que 14 ans quand ses deux sœurs aînées vont être enlevées. En 1978, toutes les trois s'entendent bien et se serrent les coudes face à l'éducation très stricte de leur père.
D'abord, on l'appelait pas papa.
D'accord. Pourquoi?
On l'appelait le père.
Le père?
Oui. Parce qu'il n'y avait pas de... Il était dur, la relation, on ne peut pas dire qu'il y en avait une, c'était... Il n'y avait pas de communication. Il n'était pas spécialement agréable avec ma mère, déjà.
C'est un père que vous craignez?
À ce moment-là, oui.
Ouais.
Oui.
Vous avez 16 ans, Nadia a 17 ans, l'été arrive, votre père vous propose de vous emmener en vacances en Algérie.
Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix d'ailleurs. Hein. Donc on atterrit dans une famille de 11 personnes, dans un petit appartement à 3 pièces cuisine.
Constantine.
À Constantine. Mmh.
Cette famille qui vous accueille pour les vacances, c'est de la famille de votre père ou...
Non, c'est simplement un ami, le meilleur ami de mon père.
Le meilleur ami de votre père, d'accord.
Les 10 jours ne sont pas des plus agréables pour Patricia et Nadia. Leur père ne s'occupe pas d'elle et passe tout son temps avec son ami. Pendant ce temps, les filles obéissent aux règles de la maison. Elles ne sortent jamais, restent toute la journée dans ce petit appartement en compagnie de deux des fils de la famille. À la fin du séjour, les filles sont heureuses de rentrer en France. C'est là que leur père va leur annoncer une très mauvaise nouvelle.
Nos affaires sont prêtes, mais il dit, mais je ne vous emmène pas, vous restez ici. Et là, il se frotte les mains. Il sourit et c'est là que l'inconcevable tombe vraiment comme un coup près. Et là, on n'imagine pas ça. C'est pas possible. On a l'impression d'être des objets, de pas d'être des êtres humains, pas d'être des enfants. Pas. On est quoi pour lui? On est quoi pour qu'il nous abandonne comme ça?
Est-ce qu'il vous dit pourquoi il vous laisse là?
Non, il nous dit juste, je vous laisse ici, vous serez bien. C'est la seule explication qu'on a eue. On a eu beau le supplier, lui dire qu'on voulait repartir avec lui, qu'on allait louper la rentrée des classes. Rien. Envie d'hurler, envie de fuir, et c'est pas possible.
Lorsqu'on n'a pas de papier, là, vous avez toutes les deux 16 et 17 ans.
On est coincé.
Vous êtes coincé.
Oui, on n'a pas d'argent ensuite. On n'a pas de vêtements, à part les vêtements qu'on avait pour les 10 jours de vacances. Même si c'est le pays de notre père, d'origine de notre père, pour moi, c'est pas mon pays. Bah, pas du tout. Je veux dire, on n'a jamais vécu là-bas, on a une culture occidentale, on n'a jamais vécu. À l'algérienne, donc je suis pas chez moi.
La seule chose qui fait tenir Patricia, c'est d'être avec sa sœur. Un lien vital pour ces deux adolescentes qui vivent une quasi-séquestration et qui comprennent vite que leur avenir a été décidé. Patricia et Nadia sont promises à deux des fils de la famille. Pour l'instant, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter.
On est confinés dans un intérieur où on est obligé d'être. Il y a peu de sorties. Les grandes sorties, c'est la poste qui sont juste derrière la maison. On voit aussi, quand un cousin, entre guillemets, donc rentre dans l'appartement, si nous, on est là, on doit aller se cacher dans la chambre du fond.
Pourquoi?
Parce que l'homme qui arrive, qui rentre, qui ne fait pas partie de la famille, ne doit pas nous voir. On ne doit pas voir les filles qui sont là.
Et comment est-ce que vous vivez ce type de choses ?
Ça, on trouve ça complètement, complètement ridicule. Et en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé de se conformer à la règle qui est celle-là. Pour moi, c'est comme... on est en prison. On est en prison dans une prison sans barreau.
Votre maman réalise, bien évidemment, lorsqu'elle ne vous voit pas revenir, que vous avez été pris par votre père. Comment vit-elle cet événement, votre mère, et comment y réagit-elle ?
Elle ne nous dit pas ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent.
Elle, elle vous écrit ?
Elle nous écrit.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman ?
Toujours, elle nous dit « gardez espoir, je fais le nécessaire, j'ai vu mon avocat ». Elle est partie, elle a quitté la maison.
D'accord, alors... donc vous apprenez que votre père et votre mère
se sont
séparés.
Oui. Le fait de nous avoir emmenés, ma mère n'a pas supporté. Elle lui dit « si tu ne ramènes pas les enfants, je pars ». Et c'est ce qu'elle a fait.
Un père déchu de ses droits parentaux, menacé par la justice. Mais comme aucun accord n'existe entre l'Algérie et la France, les jeunes filles ne peuvent rien attendre des autorités. Durant la première année, Patricia et Nadia multiplient les appels au secours par courrier, sans succès. Elles sont contraintes de travailler dans l'entreprise de l'ami de leur père et continuent d'être courtisées par ceux à qui elles ont été promises. Nadia commence tout doucement à se décourager, tandis que Patricia, elle, continue de se battre.
Un jour, je suis allée au consulat, qui n'était pas loin, on a eu la chance, c'était pas loin de la maison, consulat français, et je leur raconte mon histoire. Qu'on a été enlevés, que je veux rentrer en France, qu'on veut nous marier, et que moi je ne veux pas rester là, que mon pays c'est la France. Et il me regarde, il me dit non. Je crois que je me décompose à ce moment-là. Ils me disent, attendez vos 21 ans, votre père, vous aurez peut-être des papiers pour partir. Mais je dis, mais non, c'est pas possible, je vais pas repartir. Mais j'ai eu envie, je crois, de mourir sur place. J'étais dans le pays de mon père, donc j'avais pas de papier français. De toute façon, j'avais pas de papier du tout. Et ni Nadia. Et ça, ça a été l'horreur, ce truc-là. Il y a une indifférence à notre ressenti. C'était ça aussi le plus difficile, je crois.
D'être seule, en fait.
Il n'y a personne, oui. Donc, la chose vraiment la plus importante, c'était ma sœur. Je crois que si on n'avait pas été là l'une pour l'autre, je ne sais pas comment auraient été les choses. Et quand je voyais Nadia partir de plus en plus, c'est vrai que j'ai vraiment eu peur à un moment donné de ne pas tenir toute seule.
Comment est-ce que vous expliquez la bifurcation de Nadia?
J'ai vu petit à petit, quand tous les jours on vous dit ce sera ton mari, que ce soit pour elle ou pour moi, c'est une pression qui est tellement, tellement importante que si on ne croit pas suffisamment ou si on n'a pas un espoir suffisant, on peut basculer comme ça.
Mmh. Et vous pensez que Nadia a fini par basculer comme ça?
Oui, Nadia, déjà, pour elle qui était... si pleine de vie, si joyeuse, si... petit à petit, elle a commencé à plus sourire. Petit à petit, elle a commencé à être malade physiquement. Donc ça, ça a été vraiment les prémices de l'abandon. Elle avait des rhumatismes, enfin, elle a eu plein de bobos. Et elle me disait, la vraie Nadia est morte. Et c'est vrai que je voyais dans son regard beaucoup, beaucoup de tristesse. Et c'est comme si elle s'était complètement résignée déjà quand elle me disait ça. Et moi, si j'y restais là-bas, c'est ça. C'était accepter de mourir.
Deux autres années passent. En 1981, Nadia abandonne tout espoir de retour et se résigne à accepter le mariage. Patricia le vit très mal. Elle va même jusqu'à refuser d'être sa témoin et se sent de plus en plus seule. Le salut va finalement venir d'une autre Patricia, la meilleure amie de Nadia, sa confidente depuis toute petite. Depuis la France, la jeune fille entretient une correspondance avec Nadia et a reçu dès le début ses appels au secours.
Nadia m'envoie une lettre déchirante où elle me dit « Il est parti, il nous a confisqué nos papiers, on est prisonnière, je ne veux pas rester là. » Les idées les plus folles qui me sont venues tout de suite, c'est « je vais travailler, me faire un petit pécule, je vais prendre un billet d'avion. » Je vais en prendre un aller-retour pour moi et puis je vais en prendre un autre aussi. Puis je vais les ramener à moi toute seule. Mmh. Il n'y a pas de barrière. Pour moi, ce n'était pas possible. Je veux dire, il n'y avait pas de gens qui volaient les gens et qui les enfermaient quelque part et sans leur consentement, les gardaient.
Ça n'existait pas, ça pour
non. Vous. Non. Bah, sauf que ce n'était pas si simple que ça. Mmh. Je veux dire, on est vite rattrapé par la réalité. Ce n'est pas des choses qui sont jouables. Et une fois, un collègue me dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui s'occupe de ces affaires-là. De ces affaires-là, de ces enfants qui sont enlevés, emmenés dans des pays où on les séquestre, où après, il n'y a plus aucun autre moyen de les ramener là où ils sont nés et de leur laisser le choix. » Alors, j'ai pris rendez-vous après un coup de fil et puis j'y suis allée. Seulement, j'ai été fortement déçue parce que quand j'y suis allée, ben, ma seule démarche ne suffisait pas. Ils ne pouvaient pas me croire moi et surtout, ils ne pouvaient pas enclencher un processus sur ma seule parole. Il fallait que la parole émane d'elle. Il fallait que ce soit Nadia et Sissa qui en fassent la demande. Et là, quand je suis repartie, j'ai immédiatement, je crois que j'ai même pas attendu de rentrer chez moi, j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit tout de suite, comme les infos m'avaient été données, et j'ai presque écrit en format télégramme. Voilà une adresse, j'ai trouvé la solution, stop, écrivez-lui tout de suite, demandez-lui, moi je peux pas le faire pour vous, faites-le vous.
En Algérie, dès que les deux sœurs reçoivent cette lettre, tout s'accélère. Patricia rentre en contact avec un certain monsieur Muller, un détective privé spécialisé dans le rapatriement d'enfants kidnappés. En secret, Patricia écrit à cet homme dont elle ignore tout. Une véritable bouteille à la mer. Cette lettre, elle l'avait relue à l'âge de 18 ans pour l'émission Les Nouveaux Vendredis sur FR3, dont une équipe suivait les détectives.
Constantine, le 22 octobre 1980. Cher monsieur Muller, une amie de ma sœur m'a envoyé votre adresse en me disant que vous pourriez m'aider à regagner la France. Je me présente. Je m'appelle Patricia. J'ai 18 ans. Vous savez, monsieur, je ne tiens pas à rester ici. Je ne peux pas vivre en Algérie.
Mon vœu le plus cher est de retourner en France. Retrouver ma mère et ma petite sœur qui habitent à Verdun actuellement. Nous ne nous connaissons pas. Mais si j'ai finalement décidé de vous écrire, c'est parce que tout ce que ma mère a entrepris n'a abouti à rien. Pour ma sœur Nadia, le problème ne se pose plus. Elle s'est mariée il y a peu de temps avec l'aîné des fils, mais moi, monsieur, je ne tiens pas à rester ici.
Je vous en prie, monsieur. Si vraiment vous pouviez me faire regagner la France, je vous en serais reconnaissante à jamais. Il me semble que vous êtes ma seule chance.
Mon dernier espoir.
Il n'en faut pas plus à ce monsieur Muller pour passer à l'action. Avec l'aide de la mère de Patricia, il monte une expédition en Algérie et dirige l'opération depuis la France. Deux de ses agents, qui se font passer pour des diplomates suisses, se présentent alors une première fois au domicile de Patricia. Mais son futur mari, qui la séquestre, leur refuse l'entrée. Les détectives arrivent alors à approcher Nadia. Même si elle a abdiqué et a décidé de rester en Algérie, Nadia va aider sa sœur à s'échapper.
Les détectives lui ont glissé un bout de papier dans la main. Donc elle est rentrée tout de suite derrière. Et Nadia est venue me voir. Et alors là, c'était vraiment très, très chargé d'émotions. Elle m'a dit « t'inquiète pas ». Elle a ouvert le bout de papier, elle l'a lu. Elle m'a dit qu'il viendrait me chercher, qu'il fallait que je sois prête. Et pour pas qu'il y ait de traces, elle a mangé le papier. Ça, c'est fort. Mmh. Et là, on s'est pris dans les bras l'une de l'autre. Elle m'a dit « tu ne me réveilles pas au moment où je partirai ». Et c'est vrai que je suis partie, donc il y avait les trois matelas par terre. Il fallait passer sur un des matelas pour pouvoir que je m'extirpe. J'ai remercié le ciel, que ce soit pas du parquet, mais que ce soit du carrelage, pour ne pas faire de bruit. Et j'ai regardé une dernière fois en direction du lit de Nadia. J'ai pris mon sac de laine, mon manteau et je suis partie. Et je savais que je la reverrais pas.
Au petit matin, les deux détectives et les reporters de FR3 qui filment toute l'opération s'apprêtent à rejoindre le point de rendez-vous qu'ils ont fixé à Patricia.
On va arriver à l'heure très précise. Ça n'a pas l'air très, très pratique pour elle de sortir. Il y a beaucoup de monde dans cette maison et elle est surveillée.
Allez là.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Je serai les alentours.
Ok.
Désormais, la jeune fille est clandestine. Pour que son évasion réussisse, il faut fuir le plus vite possible.
Allez, faut se dépêcher. Allez, allez.
Allez, vas-y, il n'y a rien, c'est bon. Longtemps vous attendez?
Oh, il y a 10 minutes que j'attends. J'avais peur que vous ne veniez pas.
Tu penses au rideau, là? Vas-y, éteins le rideau.
Oh, je vous remercie infiniment d'être venu.
Non, non, c'est normal. Personne t'a vu?
Non, il n'y a personne qui m'a vu. Je suis sortie, bon.
Ni suivi, ni rien?
Non, non. J'ai fait vite, si personne m'a vu, j'ai pas fait de bruit.
Bon, ben, ça va,
ok, garde.
J'espère qu'ils sont là.
C'est bon.
Ils s'en apercevront pas tout de suite à la maison.
Ça, maintenant, c'est fini, hein?
Oui.
C'est parti, hein?
580, c'est la ville de l'autre côté, ouais, donc.
Le périple est long et dure plus de 10 jours. 10 jours d'angoisse où, à tout moment, la petite équipe craint d'être arrêtée par la police algérienne. Malgré cela, les hommes arrivent à contourner chaque barrage, chaque frontière, quitte à traverser certaines zones clandestinement.
Si l'équipe de M. Muller ne serait pas venue, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Vraiment, j'étais désespérée. J'ai même pensé à me suicider au début. Mais maintenant, cette idée, ça m'est passé parce que quand même, je tiens à la vie, mais je ne sais pas quelle est la vie que j'aurais eue ici.
Le 10 avril 1980, Patricia a 19 ans quand elle retrouve enfin sa mère et sa petite sœur Corinne, qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans.
Pourquoi ma fille, tu m'attends avec moi?
Quand je rentre, j'aime tout. C'est-à-dire que j'apprécie la vie, que je me dis que j'ai de la chance d'être là, que tout est cadeau.
Bon, alors à ta santé, j'espère que tu seras heureuse.
Merci.
En France, que tu auras bientôt du travail.
À la vôtre.
Passer les retrouvailles heureuses, Patricia a dû surmonter les conséquences de ces 3 années d'enlèvement et de trahison qui l'ont changée à jamais.
C'était l'homme n'est pas fiable, l'homme est dangereux. Donc, il n'y avait pas de relation vraie. 3 ans aussi sans scolarité, ben, je trouve que c'est énorme parce que ça fait un trou énorme au niveau des connaissances. J'avais vraiment un sentiment d'infériorité très fort. Pendant des années, je me suis sentie très, très seule. Mmh. C'est-à-dire avec une difficulté à vivre, avec une solitude, avec l'impression de ne pas avoir de famille. Ma mère est décédée assez rapidement, derrière. Je pense que cette histoire d'enlèvement a contribué à sa maladie. Et je m'en suis vraiment rendu compte en rentrant, comment ça peut briser, comment ça peut faire mal, comment elle a pu être vraiment très, très abîmée par cette histoire.
Et avec votre sœur Corinne?
Ça n'a pas dû être simple pour elle non plus. On pourrait croire qu'elle était en France, qu'elle était protégée. Mmh. Et je pense que ce n'est pas le cas. Elle a subi la séparation de nos parents.
Elle a subi cet enlèvement aussi.
Elle a subi cet enlèvement, l'enlèvement de ses deux sœurs.
Quand on a 14 ans et qu'on enlève les deux grandes sœurs, ça doit être compliqué à gérer.
Oui. Elle a vu notre mère décliner. Je veux dire, dans cet état dépressif. Et quand une maman est absente dans sa tête parce qu'elle a ses deux enfants loin, peut-être que notre mère n'était plus non plus en capacité d'être suffisamment présente pour Corinne. Donc toute la famille en a supporté les conséquences, en a souffert d'une manière différente.
Malgré tout cela, Patricia a su se reconstruire. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Mais surtout, elle a gardé un lien que toute cette histoire n'a pas pu briser, celui avec Nadia. Mais elle a dû faire un long travail sur elle-même pour réussir à retourner en Algérie, revoir sa sœur, ses neveux et ses nièces.
Bonjour Sarah, tu vas bien ma grande?
Maman, ça va total?
Eh ben, ça va. Oui, la baisse ma
grande. Ça va, merci, Radouza. Ah, tu nous manques, hein?
Ah bah oui, mais je reviendrai bientôt, je sais pas quand, mais voilà.
Aujourd'hui, le dialogue avec Nadia restée en Algérie passe par Internet. Si Nadia n'a pas voulu apparaître à l'image, elle accepte toutefois d'évoquer son passé. Et j'ai envie de savoir pourquoi, à l'époque, elle n'a pas cherché à s'enfuir avec sa sœur.
C'est vrai que j'ai perdu espoir. Moi, je ne croyais plus en rien, je ne croyais plus du tout. Je n'ai pas eu cette persévérance qu'elle a eue, Patricia, de s'accrocher. Et à côté de moi, j'avais un homme qui était amoureux de moi. J'ai dit peut-être si je l'épouse, je pourrais retrouver une certaine liberté, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis, si vous voulez, lui aussi, dans cette histoire, ça a été aussi une victime aussi. Mm-hmm. Il est coupable de rien, lui. Voilà, je me suis engagée et j'ai respecté mon engagement. J'aurais dû résister. J'y pense toujours. Mm-hmm. C'est un truc qui me travaille quand même, cette réaction que j'ai eue, à m'oublier complètement. Au lieu de pleurer sur mon sort, au lieu de pleurer et dire « Merde, Nadia, tu te rends compte, t'aurais pu partir, tu te rends compte, t'es là, regarde, regarde la fille qui t'attend. » Rien, rien, néant, rien, c'est du noir. Il n'y avait rien dans ma tête. Vivre toute une vie dans une maison, très peu de sorties, mais ils comprennent pas ça. Même mon mari, il est très gentil, il est très aimant. Mais il ne comprend pas ce que je ressens. C'est son éducation, c'est sa religion, c'est leur façon de voir les choses.
Vous arrivez à être heureuse aujourd'hui quand même par rapport à cette histoire ?
Oui, bah oui, oui quand même, oui.
Comment est-ce que vous vous êtes reconstruite ?
Ben, si vous voulez, quand j'ai eu mes enfants, j'ai occulté ma souffrance. Je voulais avoir une raison de vivre. C'est un truc qui a tellement été brutal, surtout de la part d'un papa. Un papa qui nous a abandonnés. J'ai senti, c'est de la douleur, c'est de l'incompréhension, c'est un cauchemar éveillé. C'est inimaginable, inimaginable.
C'est quelque chose auquel vous pensez encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes expliqué tout ça ? Est-ce que...
Mais avec le recul, puisque maintenant j'ai vécu avec des Algériens, j'ai les deux cultures, je peux comprendre les ressentis d'une famille algérienne et je comprends les ressentis d'une femme, d'une Européenne. Je peux comprendre les deux. J'ai été enrichie par ça. Et donc j'ai pu comprendre son geste et lui pardonner, parce que je lui ai pardonné sincèrement. J'ai eu du mal, ça m'a pris des années, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais quand on pardonne, on se sent mieux soi-même. On se sent mieux soi-même. Si on est rongé par la rancune, alors là, il vient de temps en temps, tous les ans. Il est venu avec moi au mariage de mes enfants. Ça m'a fait du bien que mon père soit là. J'ai des racines quand même. Bonjour, je te demande 5 minutes, s'il te plaît. Il y a mon fils qui arrive.
Je suis là.
Ah, je suis avec Cicia.
Cicia. Oh, coucou.
Coucou.
Tu vas bien ?
Ah oui.
Ouais. Ah bah c'est bien.
Est-ce que t'es jolie, tata ?
Oh bah t'es gentil, mon grand.
Hein ?
C'est son nouveau fiancé.
Il a dit, c'est qui, lui ?
C'est le Jamaïcain.
Le Jamaïcain, il a dit.
Oh, c'est un blanc.
Ouais, c'est un blanc.
Après cet enlèvement, Patricia a décidé de redevenir l'actrice de sa propre vie. Aujourd'hui, elle est thérapeute et s'occupe d'adolescents en difficulté, comme pour exorciser son passé douloureux. Un travail de plusieurs années pour évacuer sa colère et réussir, elle aussi, à pardonner à son père.
Il a accepté de me rencontrer et quand je suis arrivée chez lui, donc on s'est dit bonjour, bon, c'était quand même pas, on ne savait pas trop comment, je ne l'avais pas revu depuis 14 ans. Et puis, ce qui était bien, c'est que sur sa petite table de salon, il avait un vase. Et j'ai utilisé vraiment le support qui était là. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ? Donc, il m'a décrit ce qu'il a vu. Et moi, je lui ai dit, tu vois, moi, ce que je vois, c'est différent. Mais ce que tu vois, c'est juste. Mais ce que je vois, c'est juste aussi. Donc, pour l'Algérie, c'est la même chose. Je lui ai dit, toi, tu avais une vision de voir les choses et moi, j'en avais une autre. Ta vision et la mienne ne sont pas les mêmes. Mais certainement, pour toi, c'était juste. Ce que tu as fait, c'était juste pour toi. Mais pour moi, c'était pas juste. Il m'a regardé étonné, il m'a dit, t'es pas bête, toi, t'es pas bête. Donc là, il y a...
Ce qu'on pouvait prendre de sa part...
Oui, ça veut dire qu'il y avait vraiment une ouverture là, ouais, qui se faisait. Mmh. Et il y a quelque chose qui s'est un peu lâché en moi, qui s'est libéré. Et la vraie réconciliation s'est produit là.
En quittant Patricia, je ne peux m'empêcher de penser qu'on ne peut pas mettre toute cette histoire sur le seul compte d'une différence de culture et de religion. C'est avant tout le comportement extrême d'un homme qui n'a pas su respecter le fait qu'un enfant n'est pas la propriété de ses parents. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.